France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
C'est l'histoire d'une famille qui raconte un peu l'histoire de Jérusalem.
Sur fond de conflit israélo-palestinien, de spéculation immobilière et de batailles judiciaires, la famille Abu Assab a été expulsée dimanche de son domicile dans la vieille ville de Jérusalem. Elle vivait là depuis les années 50. Toute ma vie, j'ai vécu ici, dit Rania Abu Assab en pleurs à la porte de sa maison dimanche quand on est venu l'expulser. C'est ma vie, cette maison. Des colons juifs ont porté l'affaire en fait devant la justice avec en tête un rabbin, Shmuel Rabinovitz, qui officie au mur des Lamentations. Car en fait, avant la guerre de 1948, une famille juive possédait cet immeuble dans Jérusalem-Est. En 48, date de création d'Israël, la famille juive est relogée dans un autre quartier de la ville sainte. La famille Abu Assab s'installe dans cette maison. Mais aujourd'hui, une loi israélienne permet le retour des juifs dans leurs anciennes propriétés à Jérusalem-Est, la partie de la ville occupée, annexée par l'État hébreu, une annexion qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Et si les juifs peuvent récupérer leurs biens abandonnés en 48, pas question pour les Palestiniens de prétendre à la même chose. Ne peuvent pas récupérer les logements qu'ils ont dû abandonner à l'époque. Alors on sait l'enjeu politique pour les colons israéliens de s'installer dans les quartiers arabes. Il y a aussi un enjeu économique car le prix de ces biens flambe. En fait, pour récupérer les immeubles des Palestiniens, des colons font monter les enchères pour racheter ces biens. Le prix d'une maison à Jérusalem-Est, au cœur d'une bataille immobilière, vient d'atteindre 3 millions de dollars, nous raconte le quotidien Haaretz.
Allez, maintenant nous allons vers les Maldives.
Alors vous imaginez déjà les plages de rêve, le sable blanc, les hôtels de luxe, l'océan Indien, oui, ça vous fait un petit peu rêver, j'ai l'impression.
Ouais.
Alors là, pas du tout, je vais vous parler de la crise politique que traverse ce pays au centre d'enjeux géostratégiques insoupçonnés. L'ancien président du pays, Abdullah Yamin, vient d'être arrêté et placé en détention. Abdullah Yamin, c'est lui. Alors ici, à l'automne dernier, il reconnaît sa défaite aux élections législatives.
Pas d'où il la reconnaît, mais de sa salle de bain, là, visiblement.
Oui, bon, c'est les Maldives, hein. On est sous l'eau. Alors la défaite, c'est une défaite surprise, tant cet homme a dirigé d'une main de fer les Maldives. Il a muselé l'opposition, il a réduit les libertés publiques au maximum. Et là, il va rester en prison jusqu'à la fin de son procès pour blanchiment d'argent. On a retrouvé un virement $1 million sur son compte. Avec ses proches, il est soupçonné d'avoir détourné des millions de fonds publics des Maldives. Une chute brutale pour Abdullah Yamin et un coup d'arrêt aux ambitions de la Chine, car l'ancien président était très proche de Pékin. Traditionnellement, la micronation était plus proche de l'Inde, mais les Chinois avaient réussi donc à convaincre le pouvoir de lui ouvrir ses portes pour ses nouvelles routes de la soie. Un accord a été conclu, par exemple, pour la construction d'une station d'observation océanique, dont on ne sait pas trop si elle a des visées environnementales ou militaires. Alors, la prise de pouvoir de l'opposition pourrait signifier aujourd'hui une certaine prise de distance des Maldives avec la Chine, même si les grands chantiers ne seront pas remis en cause. Le nouveau dirigeant de l'archipel a quand même affirmé qu'il voulait se tourner de nouveau vers l'Inde, vers les États-Unis et l'Union européenne.
Amélie, qu'est-ce qui fait trembler le pouvoir en Corée du Sud ?
Alors pas seulement les menaces nucléaires de son voisin du Nord, non, le sujet explosif là-bas, c'est ça. Six bomb. Six bomb. Six bomb. Six bumpy. Six bumpy. Yo. Six bomb. Ça vous a réveillé ?
Non,
Six bomb, ouais.
Six bomb, j'avais compris autre chose.
Six bomb.
Ok.
Bon. Un groupe, c'est un groupe parmi d'autres, hein, de K-pop, vous savez, la musique pop coréenne. Le gouvernement a dû reculer, rétro-pédaler, annuler son plan pour promouvoir la diversité dans le monde de la K-pop. La semaine dernière, en fait, le ministère de l'égalité des genres critiquait l'allure trop similaire des stars, hein, de cette musique. Pour les femmes surtout, elles sont toutes minces, très maquillées, très légèrement vêtues. Le ministre demandait aux producteurs de télé de diversifier les chanteurs qu'ils programmaient. Critique immédiate sur les réseaux sociaux, le gouvernement a été accusé de censure comparé aux dirigeants autoritaires des années 60 à 80. Il a été qualifié de totalitaire et anticonstitutionnel. Il faut dire que la K-pop génère des milliards de dollars. C'est un secteur extrêmement puissant. On n'y touche pas en Corée du Sud. Et l'industrie de la chirurgie esthétique l'est aussi et profite de cette manne. Le clip de cette chanson que vous entendez, la Six Bomb, montre 6 chanteuses avant et après leur opération de chirurgie plastique. 6 bombes en plastique donc.
Voilà, et on dit non au plastique. De plus en plus,
nous,
nos plastiques.
Nos plastiques partout.
Amélie Perrier, à demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Les routes
France Inter.